Donc, comme je disais, on va commencer par un rapide survol historique de l'accompagnement, mais ça va être vraiment un survol parce que je veux passer le temps sur le reste. Et ensuite, on présentera les objectifs de l'accompagnement et ses modalités. Et puis on finira par les aspects pratiques au niveau de notre diocèse, par exemple, comment on fait pour être accompagné spirituellement si on a envie. Donc l'accompagnement spirituel, au niveau historique, c'est donc quelque chose qui date des premiers siècles, donc c'est pas du tout quelque chose de récent. Les premiers siècles, les pères du désert, pour certains, qu'on appelait anachorètes, choisissaient de vivre vraiment dans le désert, retirés du monde. C'était des sortes d'ermites, en fait. Et comme c'était une vie plutôt... Enfin, un choix de vie plutôt difficile, puisqu'on pouvait être tenté par plein de choses, y compris par... par son ego, celui qui voulait vivre ça se mettait généralement sous la responsabilité ou sous la conduite d'un ancien qui, lui, avait déjà choisi cette vie-là avant et qui, donc, pouvait le guider. Et le nouveau, je dirais, se mettait un peu à son obéissance et se laissait guider. C'est vraiment le tout début de la direction de l'accompagnement spirituel. Au IVe siècle, un peu plus tard, à la naissance de la vie monastique, ben c'est tout naturellement qu'en fait, là encore, parce que choix de vie qui n'est pas forcément évident, c'est tout naturellement que l'accompagnement s'est mis en place aussi dans les monastères, avec en particulier un rôle prépondérant de l'abbé, et c'est en particulier vrai chez les bénédictins, l'abbé qui est vraiment le père spirituel, le guide spirituel des moines. Puis l'accompagnement va continuer comme ça pendant les siècles, jusqu'au XVIIe siècle, où là on a quelque chose d'un peu marquant, qui est l'école française de spiritualité avec saint François de Sales. Et la direction spirituelle, comme on l'appelle à ce moment-là, tient en particulier une place centrale dans la formation des prêtres, parce qu'on veut des prêtres qui soient vraiment attachés à l'Esprit-Saint, qui se laissent vraiment guider par l'Esprit-Saint. À ce moment-là, la direction spirituelle est un ministère d'écoute du Saint-Esprit. C'est vraiment permettre, les directeurs spirituels aident les dirigés à percevoir la manière dont l'Esprit-Saint travaille en eux. C'est à cette période-là aussi que la direction ou l'accompagnement spirituel devient un peu plus démocratique, entre guillemets, c'est-à-dire que les laïcs commencent à pouvoir eux aussi bénéficier de l'accompagnement spirituel, alors qu'avant c'était plutôt réservé aux clercs et aux religieux. Et vraiment à partir du XXe siècle, là c'est ouvert vraiment à tous les laïcs qui le souhaitent, et on va voir tout de suite pour quels objectifs et ce que ça peut apporter à la vie chrétienne de chacun. Je dirais qu'il y a deux objectifs principaux dans l'accompagnement spirituel. Le premier, c'est vraiment une croissance de la vie chrétienne de la personne accompagnée. Et le second, qui s'en déduit un peu, qui est de permettre à la personne accompagnée de discerner sa propre vocation et d'y répondre en toute liberté. Donc si je reprends le premier objectif, croissance de la vie chrétienne, vous le savez tous, la vie chrétienne, c'est pas le fleuve tranquille, c'est pas non plus quelque chose qui est statique, c'est quelque chose qui bouge beaucoup, c'est quelque chose qui avance, qui change. On n'est jamais arrivé. Et l'accompagnement, ça permet à l'accompagné de grandir toujours davantage dans sa connaissance du Christ et en tant que disciple du Christ. Cela permet à l'accompagné de rechercher la volonté de Dieu pour lui, de choisir comment y répondre, en s'y engageant de manière libre, par amour, et en sachant pouvoir compter sur le Seigneur. Voilà, donc c'est un objectif relativement simple, mais radical. C'est une vie chrétienne authentique, toujours en croissance. Le second objectif, qui est de discerner sa vocation chrétienne, il y a un fondement dans l'accompagnement spirituel, c'est que chacun est absolument unique. Unique par ses origines, par sa famille, par son histoire, par son corps, par son caractère, ses dons, ses défauts. Chacun a donc un chemin de vie unique et une vocation qui lui est propre. Et le Seigneur aime chacun de façon propre et de façon unique. Et donc, il n'y a pas un chemin tracé. Il n'y a pas des réponses toutes prêtes. Il n'y a pas une recette qui marche pour tout le monde. Mais chacun a bien un chemin propre et une vocation unique à discerner. Alors, même si, évidemment, dans l'accompagnement, quand on a un peu d'expérience, on va retrouver des passages un peu incontournables, comme il y a dans toute vie chrétienne et dans toute vie tout court, d'ailleurs, des choses qui peuvent être un peu similaires d'une personne à une autre, mais il n'en reste pas moins que chaque chemin sera unique, chaque vocation sera unique, et c'est ça qu'on va essayer de discerner dans l'accompagnement. L'accompagnement, c'est aussi un temps de pause dans notre vie qui va très vite, dans nos multiples sollicitations. Un temps de pause pour revisiter son histoire et le chemin qui a été parcouru comme stabilité pour la suite à venir. Pour se connaître mieux soi-même, se connaître en vérité et pas forcément comme on croit se connaître. Pour y voir dans nos vies ce qu'on ne verrait sans doute pas si on ne faisait pas ces temps de pause de relecture. Pour y voir ce que le Seigneur y fait de beau et en rendre grâce, ça c'est important. Savoir se réjouir et savoir voir tout ce que le Seigneur fait de beau dans nos vies et savoir s'en réjouir. Pour faire en fait un espèce de pas de côté, de façon à s'arrêter pour mieux repartir en choisissant vraiment sa vie, en choisissant sa vie et pas en vivant, simplement. De cette manière-là, l'accompagnement permet petit à petit de discerner son identité profonde, sa vocation particulière et unique, au milieu des autres et dans l'Église. Les deux sont importants. Cette vocation particulière, c'est celle à laquelle le Seigneur nous appelle depuis toujours, pour notre bonheur et notre plein épanouissement, et pour le service de nos frères, évidemment. Cette vocation est celle qui me donne la sensation d'être là où le Seigneur m'appelle. La plus belle des vocations, ce n'est pas celle du voisin, c'est la mienne, ma vocation propre. Et cette vocation personnelle, elle doit être pensée en relation avec l'Église et les frères. Ce n'est pas une vocation purement pour moi, c'est une vocation qui est nécessairement ouverture aux frères et à l'Église. C'est tout ça qu'on discerne dans l'accompagnement. Donc la personne qui accompagne, elle est là pour aider l'accompagné à discerner donc le travail de l'Esprit-Saint en lui. Dans les désirs qu'il porte, dans les appels qu'il reçoit de l'Église ou du monde, dans les rencontres qu'il fait, dans sa confrontation avec la réalité de sa vie et donc dans les sentiments qui naissent dans la confrontation avec cette réalité de sa vie. Qu'est-ce qui m'habite? Qu'est-ce qui me touche? Qu'est-ce qui m'interroge? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui m'attriste? Tout ça, c'est pas pour rien. Et si on prend le temps de relire ça dans l'accompagnement, on peut aller beaucoup plus loin. Dans ce discernement-là, quel est le rôle de l'accompagnateur? Il est positionné à côté, il accompagne. Jamais il n'est là pour discerner à la place de la personne accompagnée, jamais. Ou alors c'est que ce n'est pas un bon accompagnement. Il n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire. Il est là pour veiller, comme le dit saint Paul, à ce que le discernement se fasse de manière juste, sage et raisonnable. Avec son expérience, avec le fait qu'il est lui-même accompagné, il est là pour aider à veiller à ce que le discernement se fasse de façon juste, sage et raisonnable. Mais jamais il ne prend de décision ou jamais il ne discerne à la place de l'accompagné. On est vraiment dans une démarche de liberté, de grandir en liberté. Dans l'amour de Dieu. Alors l'accompagnement spirituel, ce n'est pas un tout, hein, bien sûr. Ça se conjugue et s'enrichit des autres facettes de notre vie. La vie fraternelle entre chrétiens, l'expérience de vie chrétienne dans le monde, la vie de prière, la vie sacramentelle et la fréquentation des Écritures. Un mot sur les modalités de l'accompagnement. Donc c'est un dialogue interpersonnel, évidemment, c'est un dialogue en présence de l'Esprit-Saint, et on verra quel est le contenu de ce dialogue plus en détail. Donc un dialogue interpersonnel, L'accompagnement, c'est pas un monologue, c'est pas du tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui. C'est pas une leçon, bien au contraire, c'est un dialogue où habituellement l'initiative revient à la personne accompagnée. C'est elle qui amène sa vie, qui apporte sa vie. C'est elle en quelque sorte qui fait l'ordre du jour. Elle a préparé normalement son accompagnement. Et donc la personne qui accompagne écoute, accueille, fait écho, questionne, aide à aller un peu plus loin, et au bout d'un certain temps, fait mémoire. Ça, c'est important, parce que dans notre vie d'immédiateté, même si on relit le dernier mois, ce qui est déjà bien, on s'apercevra que c'est parfois sur plusieurs années que le Seigneur nous parle et nous appelle. Et que donc, il est important de faire mémoire de ce qu'on s'était dit il y a un an, deux ans, d'y revenir, de dire « Ah tiens, ces petites choses qu'on avait perçues et on ne savait pas trop bien ce que ça voulait dire », aujourd'hui, elles prennent sens. L'accompagnement, c'est un dialogue, mais ce n'est pas un dialogue symétrique, réciproque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout symétrie entre l'accompagnateur et l'accompagné. L'accompagnateur, il est là pour l'accompagner. Il ne vient pas parler de ses problèmes à lui, de ses difficultés, de ses ressentis, de sa vie à lui, de ce qu'il travaille. Non, non, il est là pour... C'est l'accompagné qui livre tout ça. Et c'est à partir de tout ça qu'on travaille. Alors évidemment, dans une relation de dialogue, il y a forcément de la part de l'accompagnateur des choses qui se disent de lui. Mais ce n'est pas le but premier. Le fait que ce soit un dialogue entre deux personnes humaines, ça veut dire que c'est une relation aussi qui prend du temps, par exemple, à se mettre en place. On ne peut pas commencer un accompagnement et se dire que ça va marcher du feu de Dieu dans le mois qui suit. Non, 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 il faut que la confiance se crée. Et donc la confiance, ça peut mettre du temps. Ça peut mettre des années. C'est une relation humaine qui met donc en présence l'écoute, la parole, mais aussi le silence. Dans une relation d'accompagnement, la personne qui accompagne ne doit pas avoir peur des silences. Parfois, c'est quand il y a du silence que des choses peuvent se dire. Et c'est donc dans cette relation-là qui se construit, dans cette relation de confiance qui se construit, qu'un chemin va se parcourir entre l'accompagnateur et l'accompagné. Et la troisième personne qui participe, c'est l'Esprit-Saint. Au début, normalement, d'une rencontre d'accompagnement, on prie. On prie l'Esprit-Saint d'être là, d'être présent, et on se met en sa présence parce que la personne accompagnée comme l'accompagnateur sont tous les deux là pour accueillir l'Esprit-Saint, l'écouter, savoir ce que l'Esprit-Saint a à nous dire pour le bien et pour que la personne accompagnée puisse grandir. C'est donc un dialogue spirituel, mais pas au sens où on parle de choses pieuses ou de spiritualité, etc. Même si ça peut arriver, c'est pas le but premier. Le but premier de l'accompagnement, c'est de parler de la vie de l'accompagné, des choses terre à terre, les soucis familiaux, la vie de travail, les projets de vacances, etc. Dans tout ça, on parle pas forcément de Dieu, mais en fait, en creux, c'est l'Esprit du Christ qu'on recherche dans nos vies. Donc de toute façon, c'est spirituel. Et donc la personne qui accompagne va aider la personne accompagnée à reconnaître dans sa vie les mouvements, les sollicitations, l'œuvre de l'Esprit-Saint et la présence du Christ dans sa vie. Alors ça repose sur une conviction fondamentale qui est de l'ordre de la foi, mais nous faisons tous l'expérience et que saint Ignace résumait ainsi, le Créateur se communique lui-même à sa créature, il agit et l'enveloppe de son amour. Cela se fait souvent avec la délicatesse du Seigneur, au travers de petites choses. Le Seigneur, ce n'est pas souvent qu'on a des conversions à la Saint-Paul. Dans nos vies à nous, c'est beaucoup plus souvent dans un souffle d'une brise légère. Souffle d'une brise légère qu'on pourrait très bien ne pas entendre, en fait, si on ne s'arrêtait pas pour l'écouter. Et si quelqu'un n'était peut-être pas là pour nous aider à le discerner. Les signes de la qualité d'un dialogue, c'est la confiance croissante qui permet de se livrer de plus en plus dans la simplicité. Et pour l'accompagner, c'est surtout que l'accompagnement spirituel, le dialogue spirituel, est source de paix profonde, d'acceptation de soi, de confiance en Dieu, source de liberté profonde et de joie. En fait, on apprend à habiter sa vie, ses décisions, même si on sait bien, avec l'aide de notre accompagnateur, que tout n'est pas d'équerre et qu'il ne le sera jamais. De toute façon, on fait confiance au Seigneur. Comme je disais, le contenu du dialogue, c'est ce qui fait notre vie, nos activités, nos choix, l'impact des événements, des rencontres, nos projets, nos réussites, nos échecs, le travail, les loisirs, la famille, la vie affective, l'usage des biens, l'usage de l'argent, les relations aux autres et notre vie de prière, bien entendu. Donc il ne s'agit pas de raconter toute sa vie, parce qu'une heure ne suffirait pas, mais il s'agit d'apprendre à goûter sa vie, à la relire, à en apprécier la saveur. On pourrait dire qu'il s'agit d'apprendre à habiter sa propre demeure et ne pas être chez soi comme un étranger. Dans ce qui fait ma vie, quelles sont les pensées, les élans profonds de mon cœur, ce qui m'anime. Discerner ce qui a goût d'évangile, de paix, de joie, de justice, de foi, d'amour. Et qu'est-ce qui a un goût amer ? La tristesse, les mauvaises inquiétudes, le repli sur soi, la culpabilité paralysante, le péché. Et donc dans l'accompagnement, une partie consiste aussi à relire ce qui se passe dans notre vie de prière. Quel est l'écho de la parole de Dieu dans notre vie ? Quand nous prions, qu'est-ce qui fait notre prière ? Qu'est-ce qui la remplit ou qu'est-ce qui la trouble ? Voilà. Alors les questions pratiques. L'accompagnement spirituel, ce sont des rencontres régulières avec un accompagnateur. Généralement des rencontres d'une heure maximum, à une fréquence qui doit être définie par avance, qui peut être de 5 ou 6 fois par an quand on a un accompagnement qui est bien en place, sinon c'est plutôt une fois par mois au départ, pour que les choses se mettent en place. C'est important de fixer le rendez-vous suivant quand on est dans un rendez-vous, pour pas que ça se dilue dans l'espace-temps, tout ça. Et pour pas non plus qu'on ne prenne rendez-vous que quand il y a des problèmes. C'est pas du tout le but. Et un accompagnement, ça se prépare. Je dirais que le temps de préparation est au moins aussi important que le temps de rencontre. Pour bien faire, moi j'arrive pas à le faire, mais pour bien faire, il faudrait prendre un temps de relecture un peu tous les jours. Regarder sa vie tous les jours et se dire, aujourd'hui dans ma vie, qu'est-ce qui a été un peu marquant ? Alors ça peut être des toutes petites choses. Hein. À la station-service, j'ai quelqu'un qui m'a engueulé parce que j'étais pas bien garé. Comment j'ai réagi ? Est-ce que ça m'a touché ? Est-ce que j'ai eu envie de lui répondre ? Est-ce que j'ai envie de lui dire « Ah ben désolé » ou est-ce que j'ai envie de me... Voilà. Comment j'ai réagi intérieurement ? Qu'est-ce que ça m'a fait ? C'est des petites choses, on les note. Parce que tout ça, sinon, ça s'évapore. Alors que dans tout ça, le Seigneur nous parle. Et tout ça, après, on peut l'amener à la rencontre d'accompagnement suivante. Alors moi, je n'y arrive pas, je le fais une fois par mois, avant, en essayant de me rappeler. Je reprends mon agenda, je regarde, je me dis « Ah oui, et ça me fait revenir des souvenirs. » Mais bon, ce n'est pas forcément le mieux. Alors, trouver un accompagnateur spirituel. Je pense que vous mesurez un petit peu, j'espère que vous mesurez à quel point l'accompagnement spirituel peut être quelque chose d'important dans notre vie de chrétien. Et donc, trouver un accompagnateur spirituel, c'est quelque chose de fondamentalement important. On ne choisit pas ça à la légère. Et il faut faire attention à qui on confie notre accompagnement, en fait. sur notre diocèse, il y a un service d'accompagnement spirituel. Ce service, c'est un gage de sérieux, parce que ça veut dire que c'est des gens qui sont formés, des gens qui sont accompagnés eux-mêmes, forcément, et des gens qui sont formés, et ça garantit que cet accompagnement va être fait dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire un accompagnement pour faire grandir dans sa vie chrétienne, tout en respectant la liberté de chacun. C'est vraiment un accompagnement qui aide à grandir, qui responsabilise, mais qui jamais n'infantilise, qui jamais ne met la main dessus. Et donc aujourd'hui, sur notre diocèse, le référent pour l'accompagnement spirituel, c'est le frère Jean-François Croiset de la Côtellerie. Certains le connaissent peut-être. Tout à l'heure, je vais vous laisser un papier qui résume un tout petit peu ce qu'on s'est dit, et vous aurez ses coordonnées dessus, tout en bas. Donc si jamais vous avez besoin ou envie, vous pouvez toujours le contacter. Il peut aussi vous donner des informations complémentaires. Et la manière dont ça se passe, si vous souhaitez un accompagnement, c'est que le frère Jean-François discernera avec vous, au téléphone par exemple, un peu quel est votre profil, ce que vous souhaiteriez comme type d'accompagnement. Et puis il discernera, lui, dans les personnes accompagnateurs, quelles seraient les personnes qui pourraient vous correspondre. Il vous en donnera 2-3 noms, et puis après, ce sera à vous de choisir. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas choisir quelqu'un qu'on connaît, par exemple, ou qu'on connaît trop bien. Alors, on ne peut pas être à la fois l'accompagnateur spirituel de quelqu'un et quelqu'un avec qui on vit tous les jours, par exemple. Ça, ce n'est pas possible. Il y a une histoire de fort intérieur, de fort externe, fort interne. On ne peut pas être aux deux à la fois. Enfin, c'est pas, on peut, mais c'est vraiment pas recommandé. C'est difficile à la fois pour l'accompagnateur et pour l'accompagné. Donc, il faut éviter. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions.